VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 17h30 à Bamako, 18h30 à Niamey. Bienvenue dans la première édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 9 soldats maliens ont été tués dans une embuscade. Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en Somalie. Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de commencer leur entretien au téléphone il y a quelques minutes. La Chine exige l'arrêt immédiat du bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nous allons au Mali, où des soldats maliens ont été tués dans une embuscade entre Dogofri et Nampala, dans le centre du pays. 5 militaires ont été blessés. Modibo Dembélé a pu joindre le colonel Diaran Koné, porte-parole de l'armée malienne.
Aujourd'hui, effectivement, entre midi et 13h, devant un élément de ravitaillement Fama, donc sur l'axe Nampala-Diabali, j'ai tombé dans une embuscade. Malheureusement, nous déplorons la perte de près de 9 de nos personnels, 2 véhicules perdus et il y a aussi 5 blessés. Déplorons tout ce qui est prompt rétablissement et se présenter leurs condoléances. Maintenant, l'occasion est opportune pour nous aussi de nous saisir de votre micro pour en appeler à toute la bonne volonté, notamment aux populations, qu'elles puissent intervenir et dénoncer par la voie qui sert de mieux toute tentative, toute suspicion. Et sans cela, la lutte antiterroriste n'est vraiment plus une question purement militaire, c'est une question transverse, c'est une question pour tout le monde. Donc j'en appelle à l'esprit de compréhension de tout le monde.
Vous n'avez aucune idée sur l'identité des assaillants?
Pour l'instant, l'identité des assaillants, c'est des actes terroristes, tout simplement.
Le colonel Diaran Koné, porte-parole de l'armée malienne. Au Nigeria, des membres de la société civile ont appelé Muhammadu Buhari à se retirer du pouvoir en raison de ses problèmes de santé. Dans une lettre ouverte, 13 personnalités, dont Femi Falana, défenseur des droits de l'homme, se disent contraint à conseiller au président nigérian de suivre les indications de ses médecins et de se reposer sans plus attendre. Le Liberia a enregistré, y compris dans sa capitale, Monrovia, de nouveaux cas de la maladie non identifiée provoquant fièvre et vomissements. Cette maladie, testée négative à Ebola, a fait 12 morts en moins de 10 jours, selon le ministère libérien de la Santé. Le Burundi fait face depuis plus d'une semaine à une très grave pénurie d'essence en raison du manque de devises, selon le gouvernement, alors que le pays reste plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie et courent des risques très élevés de mourir, a averti mardi l'UNICEF. Le point avec Tatiana Mosso.
La projection du nombre d'enfants qui souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë a augmenté de 50% depuis le début de l'année à 1,4 million, a déclaré une porte-parole de l'UNICEF, précisant qu'il s'agissait de projections pour 2017. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent des risques 9 fois plus élevés de mourir que les enfants bien nourris. En 2011, la dernière famine en Somalie a tué au moins 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 5 ans, selon le programme alimentaire mondial. La Corne de l'Afrique est touchée par une grave sécheresse qui a déplacé plus de 615 000 personnes en Somalie depuis novembre dernier, alors que le pays comptait déjà quelque 1,1 million de déplacés. L'appel de fonds d'urgence de l'ONU de 720 millions de dollars pour la Somalie est financé à hauteur de 58%, a indiqué mardi Jens Lear, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, Fayez al-Sarraj et le chef du gouvernement d'Union et le maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés aujourd'hui à Abu Dhabi. Le point avec Idriss Fall.
Le maréchal Khalifa Haftar a rencontré ce matin Faisal Sarraj à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. D'après la chaîne de télévision libyenne 218, les deux rivaux ont posé pour les photographes avant de s'entretenir à huis clos et rien n'a filtré à l'issue de leur discussion. Un premier tête-à-tête entre les deux hommes a déjà eu lieu en janvier 2016, peu après la désignation de M. Sarraj à la tête du gouvernement basé à Tripoli. Ils devaient se retrouver à la mi-février au Caire pour négocier des amendements à l'accord politique signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. Cet accord ne prévoyait aucun rôle pour M. Haftar, dont les forces contrôlent une grande partie de l'Est libyen. Après cette rencontre avortée, M. Sarraj avait estimé qu'une occasion précieuse a été manquée pour trouver un début de solution à la division et aux souffrances des Libyens.
6 ans après la chute de la dictature en Tunisie, un collectif d'ONG locales et internationales a mis en garde contre un recul de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Ces ONG, dont Reporters sans frontières et le syndicat des journalistes tunisiens, s'inquiètent du projet de loi du gouvernement qui prévoit la création d'une instance de régulation de la communication audiovisuelle et de la récente interdiction d'un hebdomadaire. Mohamed VI, le roi du Maroc, est en France pour une visite privée à dimension politique et culturelle. Mohamed VI avait été le 24 mai 2012 le premier chef d'État accueilli à l'Élysée par le président Hollande après son élection. Il pourrait également être le dernier avant la fin de son mandat à la mi-mai. Le Rwanda va introduire une espèce disparue, les rhinocéros noirs, dans un parc naturel de l'Akagera. L'espèce a disparu au Rwanda il y a 10 ans et 20 spécimens vont être transférés d'Afrique du Sud d'ici à mi-mai. Le rhinocéros noir est en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous reviendrons sur cette espèce en voie de disparition, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans notre partie magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'entretient au moment où je vous parle au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Avez-vous quelques détails, John Lindon?
La présidence américaine n'a pas précisé de quoi discutent les deux dirigeants. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a déjà parlé au téléphone avec Vladimir Poutine à deux reprises. Le 28 janvier, ils avaient abordé la lutte contre le groupe État islamique pendant un appel de félicitations du président russe. Et lors du dernier appel, le 3 avril, M. Trump avait assuré de son soutien à la Russie endeuillé par un attentat à la bombe qui avait fait 15 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les liens entre les États-Unis et la Russie sont observés à la loupe. Les services de renseignement américains ont affirmé que des hackers dirigés par le Kremlin ont accédé au réseau informatique de la direction du Parti démocrate avant la présidentielle américaine. La Russie a démenti régulièrement toute ingérence dans ces élections américaines. Le FBI examine les liens entre des membres de l'équipe de campagne de Trump et le gouvernement russe. Parallèlement, le Pentagone mène des enquêtes sur des paiements d'entreprises russes à Michael Flint, ancien conseiller à la sécurité nationale.
Merci beaucoup, John. Le président Vladimir Poutine, qui a appelé aujourd'hui à renforcer le cessez-le-feu en Syrie, à la veille de l'ouverture de nouveaux pourparlers de paix à Astana, auxquels participeront des délégations du régime syrien et des rebelles. La Chine exige l'arrêt du système de défense antimissile dont les États-Unis ont annoncé lundi la mise en service en Corée du Sud. Les précisions de Timothée Donangmai.
Le Terminal High Altitude Defense, TAD, est un bouclier censé protéger la Corée du Sud de missiles tirés par la Corée du Nord. Il a une capacité initiale d'interception, mais les travaux doivent se poursuivre dans les prochains mois pour le rendre entièrement opérationnel, ont fait savoir des responsables américains de la défense. La Chine estime que c'est une menace potentielle et s'oppose au déploiement du système TAD en Corée du Sud. Nous appelons les parties concernées à arrêter ce déploiement immédiatement et nous prendrons fermement des mesures nécessaires pour défendre nos intérêts, a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'est dit encouragé par les dernières déclarations du président Donald Trump, qui a assuré lundi être prêt à rencontrer le leader nord-coréen si toutes les conditions étaient réunies.
La ministre allemande de la Défense a annulé un déplacement aux États-Unis demain et jeudi en raison du scandale autour d'un militaire, un officier de 28 ans soupçonné de préparer un attentat et qui se faisait passer pour un réfugié syrien. Le parquet fédéral allemand a été saisi de l'enquête sur cette affaire rocambolesque. Au Brésil, un Indien de la tribu Gamela s'est fait couper les deux mains par des fermiers dimanche lors d'une attaque liée au conflit sur l'exploitation des terres qui a fait au moins 13 blessés. Selon le CIMI, il a également été blessé par des tirs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Sénégal et la Côte d'Ivoire veulent accélérer leurs échanges commerciaux plus de 45 ans après la signature d'accords commerciaux entre les deux pays. C'est du moins ce qui ressort d'un forum sur les partenariats économiques sénégalo-ivoiriens pour l'intégration régionale et l'émergence qui s'est tenu récemment à Abidjan. Selon des participants, les deux pays n'ont pas encore exprimé toute leur potentialité dans les domaines du commerce et de l'investissement, d'où la nécessité de nouvelles initiatives, notamment du secteur privé. La production tunisienne de phosphate a augmenté de 46% au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Elle a atteint 1,33 million de tonnes. Le ministère tunisien de l'énergie attribue cette hausse au fait que la principale région productrice de phosphate dans le sud connaît moins de mouvements sociaux comme les grèves et sit-ins. Les exportations de phosphate et le tourisme sont des piliers de l'économie tunisienne. Le Fonds monétaire international estime que l'Égypte doit faire du combat contre la montée de l'inflation une priorité pour pouvoir améliorer son économie. Une mission du FMI est actuellement dans le pays pour passer en revue les réformes économiques entreprises par le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi. Le Caire attend de recevoir la deuxième tranche d'un programme de prêt sur 3 ans de 12 milliards de dollars du FMI.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Et bien évidemment, nous allons parler foot avec la première demi-finale ce soir en Ligue des Champions, les deux Madrid encore en face à face.
Le Real reçoit l'Atlético pour une revanche des finales 2014 et 2016 remportée par le club merengue. Éternel gagnant dépend de son voisin Colchonero. Le théâtre de l'affiche de ce soir clair se produit dans le luxueux stade de Santiago Bernabéu, tandis que le match retour le 10 mai se jouera au stade de l'antique Vicente Calderón. Moins de 10 km séparent les deux voisins. Ce derby oppose donc un Madrid qui gagne et qui veut continuer de gagner à un Madrid qui voudrait gagner et y parvenir enfin. La Ligue des Champions étant la seule ultime marche qui reste au Colchoneros. Rendez-vous à 20h45, temps universel.
Et demain, Eric, le Monaco de Mbappé contre la Juventus de Buffon.
Paulo Dybala, numéro 21 de la Juventus, au talent de grand numéro 10, sera le danger numéro 1 pour Monaco. Il y a deux maillots mythiques à la Juventus, Claire, le numéro 10, qui a été porté par Platini, Baggio, Del Piero, ou pendant un an seulement par Paul Pogba, et le 21, celui de Zidane, de Pirlo, et de Dybala. Son doublé face à Barcelone en quart de finale l'a élevé au rang de quasi-Messi et de candidat possible au Ballon d'Or dans un proche avenir. Cependant, il faut dire que Monaco est très en forme en ce moment. Pourquoi pas effacer les larmes de 2015 en quart de finale de Ligue des Champions qui s'était jouée sur un pénalty face à Juventus, une rencontre entre jeunes loups et vieux renards.
La 35e journée du championnat d'Angleterre, le plus beau but du milieu de Liverpool, Emre Can.
L'international allemand de 23 ans a repris de voler une passe en profondeur lobée de Lucas Leiva d'un ciseau retourné en pleine lucarne dans le temps additionnel de la première période. C'est le plus beau but que j'ai marqué, s'est réjoui Can au micro de Sky Sports. Liverpool est actuellement 3e de Premier League, 3 points devant Manchester City et 4 devant United, qui comptent tous 2 un match en retard.
Athlétisme, l'EAA veut remettre à zéro les records d'Europe.
La Fédération Européenne d'Athlétisme envisage de remettre à zéro tous les records d'Europe. C'est en réponse aux doutes qui entourent certaines performances datant d'une époque marquée par le dopage. La date reste à définir claire pour les inscrire dans une catégorie ancien record d'Europe. Ceci a évidemment provoqué la colère des athlètes détenteurs de records.
Quelques mots pour la NBA ?
Cleveland a battu Toronto 116-105 et la conférence Ouest, Houston, a atomisé San Antonio.
Merci.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Les violences se poursuivent dans le Kasaï. En RDC, 5 inspecteurs de l'éducation nationale ont été décapités dans le village de Bukonde alors qu'ils devaient superviser les épreuves nationales du baccalauréat. Eddie Sango a joint sur place le coordinateur provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, maître Adrien Ibkoué.
Nous confirmons l'information parce qu'il y a même parmi les 5 là, mon beau-père qui fait partie de ceux-là qui étaient décapités. Pendant que je vous parle, il y a 2 chez lui à la maison. On a retrouvé à peu près 3 corps sans tête. Ils ont été surpris entre Bukonde dans leur jeep. Ils ont été interceptés. On les a appelés pour les descendre. Ils sont surpris. On leur a demandé de se présenter. Ils se sont présentés et le milicien leur a dit « La mission à laquelle vous allez, il n'y a ni prêtre ni sœur. » Tout le monde a pris les inspecteurs, leur ont dit « Si tel est le cas, vous pouvez nous autoriser et rebourser chemin. » Bon, ils ont exigé de l'argent. Ils se sont cotisés, ils ont donné de l'argent, mais par après, ils ont été appelés d'aller se présenter devant leur chef. On ne sait pas c'était quel chef. Ils sont allés, ils ont laissé tous leurs biens là-bas. Et au niveau de ces villages-là, ils ont été décapités.
Mais les violences continuent dans cette partie du pays, de la RDC, alors qu'une solution a semblé être trouvée et les gouvernements a permis la désignation d'un nouveau chef et a remis les corps de l'ancien chef Kamena Nsapu à sa famille qui a été enterrée selon le rituel traditionnel.
Nous assistons là au son des cloches, ceux-là qui estiment que le chef a été abattu et ceux-là qui soutiennent que non, le chef est bel et bien vivant. Ce sont ces adeptes qui continuent toujours à tracasser la population et au jour d'aujourd'hui, et puis, il faut reconnaître que la situation est incontrôlable parce que ces miliciens-là n'ont pas quelqu'un qui les dirige. C'est comme ça que tout leur est permis. C'est comme ça qu'eux s'opposent contre le nouveau chef qui a été choisi par la famille régnante.
On apprend qu'ils exigeraient la mise en application plutôt de l'accord et la désignation de Félix Tshisekedi.
Ça, c'est le groupe qui a déposé les armes. C'est ce groupe-là qui revendiquait l'application de l'accord.
On parle de plus en plus de cas de décapitation à part les experts de l'ONU, leurs accompagnateurs, des policiers, mais un peu chaque jour, on parle de cas de décapitation. Par quoi cela s'explique-t-il?
Maintenant, c'est devenu un véritable règlement de compte. Lorsque je ne m'entends pas avec Eddie et Sango, il faut aller vite voir le milicien pour leur dire que non, voilà ce que Eddie m'a fait. Et les miliciens viennent là, ils vous appellent, si vous répondez, ils vous posent des questions, vous payez des amendes, ils vous laissent. Et si vous refusez d'aller répondre à leur justice, à ce moment-là, ils montrent des stratégies pour vous arrêter à n'importe quel endroit. Ils vous décapitent sans aucune forme de procès.
Maître Adrien Ilapkwe, coordinateur provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice au Kasaï central.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Denangmaï et ses invités.
En République centrafricaine, selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacées ces trois derniers mois suite à des attaques de groupes armés sur des civils. Le pays sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Pour un état des lieux, Solange Nyamulisa a joint Lewis Mudje, chercheur à Human Rights Watch de la division Afrique.
Donc, nous à Human Rights Watch, on continue d'être tellement inquiété par rapport à la situation au centre du pays. Depuis la fin de 2016, il y a deux groupes des ex-sénégalais qui continuent de s'affronter entre eux. Et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-Seleka, les FPRC et les UPC. Donc, bien sûr, il y a des présences de les Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, nouveau de gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Et pourquoi la reprise des violences?
Le reprise des violences, bon, c'est entre deux groupes des ex-Seleka. Ils ont commencé de s'affronter par rapport au contrôle de mine dans la zone. La province de la Waka, c'est une zone avec beaucoup de mine d'or. Donc, ils ont commencé de s'affronter entre eux au mois de novembre 2016 par rapport de contrôler les mines.
Et est-ce que vous pensez que le pays risque de basculer de nouveau dans une guerre civile?
Bon, c'est difficile de dire que, en fait, il n'y a pas une guerre civile actuellement. Le pays n'est pas stable. Le capitale, Bangui, et le sud-ouest du pays, ils sont plus ou moins stables là-bas. Mais le nord-ouest et le centre du pays, on ne peut pas dire que c'est stable. Au sud-est, nous avons tous deux la présence de la LRA de Ouganda. Et les forces ougandaises et les forces américaines viennent d'annoncer qu'ils vont quitter cette zone. Donc ça va créer encore le travail pour les MINUSCA, pour les forces onusiennes de faire. Parce que le sud-est, on estime que le sud-est, ça va être très chaud très bientôt.
Lewis Mudje, chercheur de la division Afrique de Human Rights Watch.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, difficultés dans l'éducation des enfants réfugiés de Centrafrique, installés dans quatre camps du département de la Niapende, région du Logon oriental. Les élèves quittent les salles de classe pour se lancer dans des activités qui leur donneront un peu d'argent pour assurer leur survie. André Komadjengar est allé à la rencontre de ces réfugiés. Écoutons son reportage.
Au petit matin, les bords du lac Tchad ne sont pas silencieux, au contraire. Dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs des réfugiés nigérians tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou, 14 ans, originaire de Torambaga, village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
Ma vie d'avant me manque. Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile. J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal, où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher. Une location qui coûte cher, puisqu'en moyenne, il faut reverser un tiers de la pêche quotidienne au propriétaire du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérian.
On paie pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau. C'est dur. Quand les conditions et l'appel seront revenus, on rentrera au Nigeria.
Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maïga, avec son débardeur jaune. Ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son activité de pêcheur.
Tout le monde sait pourquoi nous sommes là, c'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur au Mali, je ne pouvais pas pratiquer la pêche. Donc je suis venu ici, je n'ai pas d'autre source, je ne vis que pour ça.
Depuis les premiers attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme. On écoute l'un d'entre eux sur VOA Afrique. Ali Mborou.
Avant 2015, on avait un souffle, mais maintenant que Karam est retouché jusqu'au niveau des frontières, donc maintenant il n'y a rien. On n'a pas peur, on dort bien la nuit sans nous inquiéter.
Il est déjà 10h du matin, ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche à pêcher les attend en fin d'après-midi sur le lac Tchad. Nicolas Pinault, Tagal, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et nous revenons donc sur le rhinocéros, cette espèce menacée d'extinction. La Côte d'Ivoire tente de le protéger, de protéger le seul animal qui reste en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Ibrahim Tunkara.
Il y a une vingtaine d'années, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk offrait à son homologue ivoirien Félix Houphouët-Boigny un couple de rhinocéros blancs. De ce couple est né un jeune rhinocéros. Si l'on est jusque-là sans nouvelles du couple, sans doute tué par des braconniers, le petit rhinocéros a quant à lui grandi et erre dans des villages dans la région de Dimokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Seulement voilà, la mort il y a quelques semaines d'un chef de village tué par ce rhinocéros va rendre la cohabitation difficile. L'inquiétude s'est emparée des villageois qui veulent en découdre avec l'animal. Pour le gouvernement ivoirien, il faut sauver aussi bien les villageois que le rhinocéros, d'où le transfert dans quelques jours de l'animal vers un parc privé. Un transfert qui sera mené par des spécialistes sud-africains. Ludia Kité, propriétaire de la réserve qui va accueillir le rhinocéros.
On fait venir une équipe de vétérinaires experts d'Afrique du Sud pour s'assurer qu'elle sera faite dans de très bonnes conditions. Ensuite, il y a la capture, le transport, le réveil. Ce sont des opérations très très délicates, donc qui peut être faite que par des experts. Ensuite, il sera en quarantaine pendant un certain moment, dans ce qu'on appelle un boma, où on va le nourrir avant de le relâcher à l'état naturel.
Pour le directeur général des eaux et forêts, en plus du rhinocéros, d'autres espèces sont également menacées dans les forêts ivoiriennes.
Les lions, on a des traces mais on ne les voit plus. Et c'est ce qui nous a amené à importer des lions d'Afrique du Sud qui sont aux zoos aujourd'hui. Et déjà, nous avons eu 8 lionceaux. Il y a les panthères qui sont en voie de disparition. Il y a les pangolins qui sont en voie de disparition. Et surtout l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire qu'on doit protéger à tout prix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une nouvelle loi sur la faune et sa protection pour encadrer mieux encore la protection de ces animaux. Mais aussi, il faut que nous puissions sensibiliser les populations que ces espèces-là sont protégées intégralement.
Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute et de votre fidélité à VOA Afrique. Je remercie Michel Joseph à la mise en onde, Zeyneb Abdourahman à la console et bien sûr toute l'équipe de journalistes à la rédaction. Au micro, c'était Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas notre page Facebook qui nous permet de maintenir la conversation. Likez nos articles, réagissez à nos questions, commentez les actualités. Notre page Facebook est là pour ça. Tout de suite, retrouvez notre émission interactive À votre avis, présentée ce soir par John Lyndon avec un thème qui, j'avoue, m'intéresse beaucoup. et que je vous donne quelques minutes à l'avance. Faut-il partager les tâches ménagères dans un couple? J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont intervenir. Tout de suite, un nouveau journal en notre compagnie. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.